en sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Comment devient-on un détective du passé ? Doan Bui, né en France de parents vietnamiens, ne l'a pas vu venir. Quoi donc ? Mais cette vocation à poser des questions, à faire des fouilles en terre familiale, rubrique généalogie. Et puis c'est doucement arrivé. Elle qui ne lisait jamais le journal Le Monde à la maison, la voilà aujourd'hui journaliste, signant dans l'Obs des papiers de grands reporters qui font loi. Prix Albert Londres 2013 pour Les Fantômes du Fleuve, qui relatait l'odyssée des migrants, Doan Bui sait depuis ses nombreuses enquêtes que derrière les chiffres de l'immigration, des migrations, il y a des histoires, des visages, il y a de l'humain. En fait, elle le sait depuis qu'elle est la fille de son père. À lire son premier récit intime, prix American Vespucci 2016, Le silence de mon père, aux éditions L'Iconoclaste.
Dire je. Un truc de français, dirait-on chez nous. Le pronom personnel m'embarrasse. Je voudrais barrer ce jeu impudique qui me définit pourtant, moi, la fille de mon père. Je veux raconter mon père, raconter les miens et déjà, je fuis. Je me cache derrière le nous. Nous, notre famille, notre clan.
Bonjour Doan Bui.
Bonjour.
Donc vous vous êtes permis ce truc de français, dire « je » à un moment précis de votre vie, au moment où votre père ne peut plus parler, il est victime d'un AVC. Est-ce que vous avez vécu ce « je » comme une transgression culturelle ?
Oui, je l'ai vécu comme une transgression puisque ma famille est faite de silence. Et d'ailleurs, c'est même pas exactement au moment du silence de mon père que je me suis emparée de ce jeu, puisque mon père a eu cet AVC en 2005. Suite à cet AVC, donc cet accident vasculo-cérébral, il en est sorti aphasique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus parler. Et donc le silence, qui était un peu la règle dans ma famille, est devenu un silence physique pour lui. Et c'était la même année où je suis devenue maman, et où du coup, ben forcément, je me suis posé des questions sur quelle histoire j'allais transmettre à ma fille aînée, qu'est-ce que j'allais lui raconter de l'histoire de mes parents. Et brutalement, je me suis rendu compte que je ne savais rien, et que ces questions, je ne les avais jamais posées à mon père, et qu'il ne pourrait plus y répondre. Et donc 2005-2016, vous voyez, il a fallu quand même 11 ans pour que j'ose transgresser ce tabou-là et que j'ose m'emparer du jeu qui raconte pas mon histoire, notre histoire.
Comme fille de.
Ah, il y a des métissages improbables hein, parfois. Vous êtes fille de quelle mémoire musicale, Doan Bui, en écoutant ça ?
Oh, je suis fille de plein de mémoires musicales. Justement, je pense que j'ai jamais voulu faire de choix par rapport à ça.
Mais Brave Margot de Brassens, c'est l'hymne vietnamien, pourquoi ?
Parce que quand je suis arrivée à l'école, je ne parlais pas français. Et donc quand je suis arrivée, la maîtresse m'a demandé de chanter une chanson. Et la seule chanson que je connaissais, c'était « Quand Margot donnait la gougoute à son chat » de Georges Brassens. Et donc du coup, bon, je ne comprenais pas évidemment les paroles, mais c'était la seule chanson que je connaissais. Et aussi, je crois qu'effectivement, je vais chanter un hymne, bon pas celui-là, mais un autre hymne, qui était l'hymne du Sud-Vietnam en plus, qui n'existait plus. Parce que c'était comme ça que je m'étais construite comme enfant.
Donc, Doan Bui, vous vous construisez dans un double mouvement, celui de la fascination pour la France, ça passe par la gastronomie et la littérature, et dans un ressenti de honte, comme ça, vis-à-vis de ce père qui ne parle pas le français, le même français que votre mère, d'ailleurs.
Oui, parce que ma mère, en fait, mon père vient du Nord, et ma mère du Nord-Vietnam, et ma mère du Sud. Mon père vient d'une famille indépendantiste, donc il a toujours été... dans des écoles où on ne parlait que vietnamien. Ma mère vient d'une famille de la grande bourgeoisie, donc a été dans un collège où on ne parlait que français. Donc elle avait un prénom français, elle chantait la Marseillaise le matin, elle récitait nos ancêtres les Gaulois, etc. etc. Donc elle-même, je pense que dès son enfance, elle avait déjà... ce qu'ont pu ressentir les indigènes, justement, cette espèce de culture entre les deux, où une partie quand même d'elle-même a été aussi gommée, puisqu'elle n'a pas du tout étudié la littérature vietnamienne, donc contrairement à mon père.
Avant votre enquête généalogique, on pourrait la présenter comme ça, qu'est-ce que vous saviez du trajet de votre père ?
Rien du tout. C'est bien simple, je ne savais rien du Vietnam. Et d'ailleurs, ça a été un choc, justement, quand il a eu cette AVC, parce que j'ai réalisé qu'en tant que journaliste, j'avais été dans plein de pays, rencontré plein de migrants de partout, et je ne savais rien du tout de l'histoire de mes parents.
Vous saviez quand même qu'il avait prévu, après ses études de médecine, de revenir, de retourner à Saïgon.
C'est ce que je supputais. Maintenant, je ne sais plus rien, parce que comme les détectives... Enfin, moi, je me suis beaucoup identifiée au détective de Rue des Boutiques Obscures, ce très beau roman de Modiano. Ce détective qui ne sait plus qui il est et qui va à la recherche de lui-même en essayant photos, archives, de reconstruire son identité. Et en fait, au bout du voyage, il sait encore moins qui il est. Là, maintenant, je connais plus mon père dans sa complexité. Et du coup, cette image univoque que j'avais de lui comme un immigré nostalgique de son pays, elle a aussi un petit peu volé en morceaux.
Cargaison humaine indésirable, c'est celle que transporte ce vieux cargo, le Haiphong, contre lequel on a lancé des vedettes de la police côtière.
À bord d'un canot à moteur, François Herbelin, commandant de l'île de Lumière, fonce vers une énorme jonque qu'il a repérée dans ses jumelles.
Les gardes-côtes malaisiens leur barrent le passage.
Les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise.
Un premier voyage par avion, nous avons déjà trouvé les avions, pour aller chercher effectivement des réfugiés. Il y en aura en total entre 2000 et 2500.
La France est très heureuse de vous accueillir.
Une partie s'adapte. On a du mal à évaluer encore l'insertion. Mais je pense qu'une génération peut bien s'adapter en France quand même.
Les voix de Jean-Paul Sartre et de Jacques Chirac, notamment au service des Boat People, et vous aviez, Doan Bouy, envie d'entendre cette archive qui date de 1974. Comment, à l'époque, est-ce que vous recevez cette expression de Boat People ?
Bon, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on a parlé des Boat People récemment avec l'actualité tragique des réfugiés. On a eu ces mêmes images de bateaux bondés, je les ai vues aussi quand j'étais à Lesbos ou ailleurs. Et quand j'ai ressorti des images d'archives, c'est vraiment l'histoire qui se répète. Enfin, c'est frappant. Après, ce qui a énormément changé, c'est le discours politique, en fait, par rapport à ces réfugiés. C'est vrai, quand on entend Jacques Chirac ou d'autres à l'époque dire « La France est heureuse de vous accueillir », quand on se souvient de ce mouvement populaire, au Mans, par exemple, des églises avaient été réquisitionnées pour donner un toit aux réfugiés venus du Sud-Est asiatique. C'est là qu'on voit l'impact, en fait, du discours politique sur la façon dont vont être perçus les réfugiés.
Voilà. Mais vous avez eu à le vivre enfin, même lointainement. Dans les années 80, vous avez des tantes qui arrivent
tout
et qui font partie des Boat People.
Alors, elles sont arrivées en avion, mais j'ai une tante qui, effectivement, est partie aux États-Unis comme Boat People. Mais justement, en fait, tout ça, je ne le savais pas. Parce que mes parents étant arrivés un peu avant, mon père est arrivé en 61 et ma mère en 72. Je me rappelle de ma mère, pourtant ils accueillaient des Boat People, mais me disant toujours, nous on n'est pas comme les Boat People. Parce que je crois que dans cette volonté d'intégration, il y a toujours cette idée de se dire que plus on est arrivé depuis longtemps et plus on est plus français. Donc il y avait même une hiérarchie, si vous voulez, dans les immigrés entre les Boat People comme une partie de ma famille ou ceux qui étaient arrivés dans les années 80, même en avion, mais qui étaient vus comme des Boat People parce que arrivés dans des conditions très compliquées, et ceux qui étaient arrivés avant. Et ce qui m'a un peu bouleversée, moi, à titre personnel, c'est d'avoir écrit plein d'articles et de reportages sur les Boat People de Lampedusa ou de Lesbos, sans même savoir que ma propre tante avait fait cette traversée et avait failli mourir avant de finalement, maintenant elle vit aux États-Unis, et sans même savoir non plus qu'un de mes oncles était mort en mer.
Votre récit, Le silence de mon père, est plein de senteurs, Doan Bouy. Ça sent le pamplemousse, ça sent le bo bun, cette fameuse salade vietnamienne, ça sent la cannelle, et puis ça sent aussi le rêve. Qu'est-ce qu'on appelle dans la famille le rêve du brin de cannelle ?
Alors, le rêve du brin de cannelle, c'est le nom de mon grand-père. Il s'appelle Kwe, donc ça veut dire la cannelle. Mes tantes m'ont raconté que quand mon arrière-grand-mère était enceinte de mon grand-père, elle avait fait un rêve et elle a rêvé d'un brin de cannelle qui s'entortillait sur lui-même. Et ce brin de cannelle qui s'entortillait sur lui-même, c'était synonyme d'immense réussite, et notamment que voilà, mon grand-père serait mandarin et que nous ferions tous de brillantes études et qu'il aurait des fils qui feraient de brillantes études. Donc, comme j'ai toujours été élevée avec une espèce d'obsession sur les études, qui vient de mes ancêtres en fait, j'ai toujours entendu ça un petit peu dans ma famille.
Poupée russe.
Sur une variation de Glenn Gould, une de vos pépites musicales, hein, Doane Bouy, on peut dire qu'au cours de votre enquête familiale, vous découvrez ce que vous appelez vous-même le côté poupée russe de nos vies et de la vie de votre père.
Oui, parce que je pense qu'on est un peu une succession, un peu comme un patchwork de plein de petits bouts de tissus totalement différents. Mon père, je le voyais comme mon père. J'arrivais pas à l'imaginer comme enfant à l'époque quand ils ont été dans le maquis. J'arrivais pas à même me le représenter. Ce jeune homme qui arrivait à 20 ans en France, ne connaissant rien de la France. Et toutes ces images, en fait, se sont rajoutées peu à peu. Il y a eu aussi son dossier de naturalisation que j'ai exhumé.
Alors ça, c'est une de ses premières vies, on va dire. Vous tombez un jour, pendant cette enquête, sur son numéro de naturalisation 110-79-X-75. Et qu'est-ce que vous découvrez ?
C'est un peu comme, je crois que je n'étais pas prête à me confronter à cette enquête, mais chaque fois, ma vie journalistique me forçait à me confronter à cette enquête-là. C'est-à-dire que quand je suis tombée sur son dossier de naturalisation, c'est pas du tout parce que je suis allée chercher son dossier de naturalisation, il faut être parfaitement honnête par rapport à ça, c'est parce qu'on était en plein sur le débat sur l'identité nationale, que j'allais un peu partout en France, où j'entendais que voilà, la France, tradition judéo-chrétienne, etc. Enfin, on me décrivait à chaque fois une France auquel finalement je n'appartenais pas. J'ai eu beaucoup de soucis avec ma carte d'identité puisque j'avais perdu ma carte d'identité et on m'a demandé de justifier que j'étais française. Donc c'est un petit peu comme si toute cette fiction que je m'étais faite être une parfaite française tombée à ce moment-là en 2007. Et c'est pendant cette période qu'une de mes consoeurs, Isabelle Monin, m'a dit, mais écoute, ce qui serait super, c'est qu'on arrive à revenir sur les parcours de migration de personnes qui aujourd'hui, de façon incontestable, représente la France. Et en fait, en exhumant les dossiers de Apollinaire, Gainsbourg, Chagall et tant d'autres, on m'a expliqué aux archives qu'en tant que fille de personnes naturalisées, je pouvais avoir accès à mon dossier malgré le délai de prescription de 50 ans. Et c'est ainsi que pendant cette enquête journalistique qui parlait donc, on va dire, d'autres immigrés, je suis effectivement tombée sur le dossier de mon père. Donc, dans un dossier de naturalisation, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments d'enquête de police, notamment. Ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, mon père, étudiant en médecine, il n'y avait pas grand-chose à raconter sur lui. Et pourtant, si, il y avait beaucoup d'enquêtes de voisinage et c'était très troublant. Là encore, j'avais l'impression d'être une détective parce que face à ces PV qui me racontaient une autre personne, enfin, il y avait les comptes rendus d'interrogatoire de mes parents, enfin, par rapport à leur volonté ou pas de devenir français, où je ne reconnaissais pas du tout le discours qu'ils avaient à la maison.
Aux yeux de l'administration française, votre père était plus assimilable que votre mère.
Ouais, tout à fait, parce que il expliquait qu'il n'avait plus aucune attache au Vietnam, qu'il n'avait plus aucun ami ni famille. Donc c'est toujours frappant pour moi de voir comment l'administration aussi voyait mes parents et qui d'ailleurs n'ont pas été naturalisés, mais ont été réintégrés, puisque le Vietnam étant une ancienne colonie. Donc rien que ce terme que je ne connaissais pas, réintégré, je trouvais ça très violent, puisque ça voulait dire que en fait, l'indépendance du Vietnam n'avait été qu'une espèce de petite parenthèse, mais que enfin ils avaient eu le bon sens de se rendre compte qu'il fallait être réintégré à la nationalité française.
Et puis vous découvrez, parce que votre père a pu quand même vous raconter des petites bribes de son enfance, il vous disait souvent qu'il avait été dans la jungle enfant. Qu'est-ce que vous découvrez par rapport
à ça? Oui, alors ça faisait partie de la mythologie familiale. On me disait, oh, papa, il a été dans la jungle. Quand on ne finissait pas nos plats, on ne finissait pas nos épinards, on disait « Ah, mais papa, tu sais, quand il était dans la jungle, il mangeait des sauterelles. » Et en fait, suite à cette enquête, j'ai découvert que la jungle, c'était le maquis et que mon grand-père avait été Viet Minh, donc avait combattu aux côtés de Ho Chi Minh. Et ma propre mère, qui est donc l'épouse de mon père depuis 50 ans, n'était pas au courant de ce passé-là. Alors on peut se demander, pourquoi donc ? Pour ça, je pense qu'il faut connaître un peu plus la diaspora vietnamienne. Effectivement, beaucoup de Vietnamiens qui ont fui en 75, en fait, ont fui le régime communiste. Et du coup, avouer que pendant un moment, ils ont été sympathisants du régime, c'est déjà une tare. On m'avait parlé, par exemple, d'un procès entre septuagénaires aux États-Unis. L'un avait traité l'autre de Viet Cong ou de communiste sur Facebook et l'autre l'a attaqué en diffamation. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, notamment, où la diaspora vietnamienne est très importante, le passé n'est pas passé. Moi, j'ai plein de tantes qui n'ont jamais voulu revenir au Vietnam. Elles ont l'impression que revenir au Vietnam serait cautionner le régime qui a envoyé leurs cousins, leurs pères, leurs frères en camp de rééducation. La blessure, elle est encore grande ouverte.
En tout cas, toutes ces révélations vous amènent à faire évidemment un jour le voyage au Vietnam. Do Anh Bui, on n'a pas le temps de l'évoquer, il faut vous lire. Ce Vietnam dans lequel vous pensiez que vos parents vous guideraient, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Extrait en sol majeur de votre récit « Le silence de mon père ».
Au guichet de la police de l'aéroport, à l'hôtel, dans le taxi, je dégaine à tout moment la phrase magique que j'ai apprise par cœur. « Pourquoi êtes-vous venue au Vietnam, ma sœur ? Tourisme ? Affaires ? Visite ? Non. Dites-moi. Je suis ici pour me recueillir sur la tombe de mes ancêtres. » Soupir extasié et respectueux de mon interlocuteur, hochement de tête et applaudissements. « Oui, ma sœur, top lam, tu fais bien, c'est important de se souvenir de ses ancêtres. Et moi, je renchéris. » Fière de ce diplôme de respectabilité, même si jamais récompense ne fut autant usurpée. J'ai l'habitude. Petite fille, je me prétendais catholique et je récitais le Notre Père dans les églises. Adolescente, je singeais les codes de mes camarades de lycée. Adulte, j'endosse le costume de journaliste. Fausse française, fausse vietnamienne, je joue un rôle, je joue des rôles. Et plus je vieillis, plus les masques se superposent. Une poupée russe en bois, avec son sourire peint et figé, qui dans son ventre cache une autre poupée, plus petite, et encore une autre, jusqu'à la dernière, minuscule, fragile. Tu ouvres, et puis, rien. Le vide.
Jazz entre la chanteuse vietnamienne Huang Tan et l'immense guitariste Nguyen Le sur RFI. Do Anh Bui, je dirais que vous avez un certain goût parce que là on est quand même très loin du kitsch qu'on peut retrouver dans les restaurants asiatiques.
Pourquoi cette chanson en fait ? Parce que ça m'a beaucoup émue quand j'ai entendu cette reprise, moitié jazz, moitié chanson traditionnelle. C'est une berceuse que me chantait ma mère en fait, et que malgré mon pauvre niveau vietnamien, je chante à mes filles. Donc mes filles ne parlent pas du tout vietnamien, mais elles connaissent les paroles de cette chanson. Donc c'est un peu ce que j'ai pu transmettre de notre histoire et de cette culture-là.
Je vous garde en otage, vous êtes d'accord, Do Anh Bui, pendant les infos du monde, et on vous retrouve en sol majeur dans 3 minutes.
Appelez-nous, exprimez-vous.
En sol majeur.
Je suis éloigné du pays comme un ver dans un cul-de-sac. Voilà ce qu'a dit un jour un poète vietnamien. C'est ce que j'ai lu dans Le silence de mon père, prix littéraire de la Porte Dorée, je ne l'ai pas encore dit. Récit intime de Do Anh Bui, journaliste grand reporter à l'Obs, prix Albert Londres 2013, rompu à l'exercice de l'enquête sur l'immigration dans le monde et qui, du trajet de son père vietnamien, ne savait rien. Beau récit qui emprunte les voies littéraires de Modiano, se perd dans les limbes de la procédure de naturalisation, s'aventure à Hanoï, dans le village des Bui, pour enfin, je cite, « oser ce truc de français, dire je ».
J'ai rencontré des Chinoises, venues travailler dans une usine au fin fond de la Moldavie. Des Roumaines, exilées en Andalousie, pour ramasser les fraises. Des Sénégalais qui espéraient atteindre l'Espagne alors que leurs camarades se noyaient dans la Méditerranée. Des Afghans tentant de franchir le fleuve Evros en Grèce. J'ai vu l'aube se lever sur des plages de Kos ou Lampedusa et des familles syriennes y débarquer de leurs canots pneumatiques, blottis sous des couvertures de survie et immortalisant d'un selfie ce moment tant attendu, leur arrivée en Europe. Mais je n'ai jamais demandé à mon père quelle avait été sa première image de la France quand il y arriva à 19 ans. C'était l'hiver. Il n'avait jamais connu l'hiver.
Ông hay bà muốn người ta để trên mộ của mình một câu gì?
Enfant. Vous rêviez d'être qui?
Enfant, je rêvais d'être tous les rêves de ma mère, donc c'est-à-dire astronaute, président de la République, écrivain super célèbre, première présidente de la République d'origine vietnamienne, évidemment, d'être fée, de rétablir la paix dans le monde. Bref, je rêvais de tout cela. En même temps, je rêvais que ma mère soit fière de moi, en fait.
Donc, le métier de journaliste, est-ce que c'était à portée de rêve dans la famille?
Non, justement, c'était une grande, c'est une grande déception pour ma mère qui ne imaginait pas dans l'écrit ni à raconter des histoires, surtout pas des histoires d'immigrés. Ça, c'était le pire. Si encore j'avais interviewé des présidents ou des stars de la télé, là, je pense que. On va dire que le lustre de la célébrité m'aurait un petit peu atteint par ricochet, mais elle a toujours eu du mal avec mon goût pour d'autres types de sujets.
Justement, ce côté poseuse de questions, est-ce que vous pensez qu'il est, c'est la question psy hein, en sol majeur, type, est-ce que vous pensez qu'il est né de ce silence familial?
Oui, je pense que, bon, j'ai jamais fait d'analyse, mais évidemment, je crois que n'importe qui me l'aurait dit, j'ai jamais posé des questions à mes parents et j'ai passé mon temps à en poser à de parfaits inconnus. Et j'ai d'ailleurs ce souvenir même de m'être dédoublée parfois quand je posais des questions en me disant, tiens, c'est bizarre, j'ai jamais posé cette question à mon propre père. Donc oui, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de hasard, ces vocations qui vous tombent dessus alors que, voilà, rien. Moi, j'étais pas programmée pour être journaliste, j'ai jamais vu le monde chez moi. Enfin, c'était pas du tout un métier pour moi. Pour moi, vraiment, journaliste, c'était un métier de français, là encore. Et je me rappelle la première fois que j'ai fait un article sur le cours du café, donc dans la rubrique économie. Quand j'ai vu mon nom, c'était une fierté énorme. Et le fait d'écrire et de voir mon nom, de signer, et donc de m'approprier le français, je pense que c'était pour moi un signal de « ça y est, je suis vraiment française ».
Les journalistes sont souvent de gauche, c'est ce qu'on dit, c'est pas toujours vrai, mais c'est ce qu'on dit en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut ouvrir encore une parenthèse familiale, Do Anh Bui, parce que vous, dans la famille, vous avez été élevé dans la haine des communistes.
Oui. Quand j'étais petite, j'avais très peur de Georges Marchais. Oui, j'étais, bah, évidemment, parce que une grande partie de ma famille a fui le régime. Donc, j'ai été élevée dans cette idée que les communistes nous avaient tout volé, nos terres, nos richesses, et que si on était, il n'y avait pas eu les communistes, si on était resté au Vietnam, on serait multimillionnaire et que on se baignerait dans des piscines de champagne. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée au lycée et que j'ai vu plein de camarades qui militaient pour LCR et c'était hyper cool d'être communiste, tout d'un coup, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme j'étais très conformiste et enfant et adolescente, évidemment, j'ai voulu être communiste, j'ai voulu être de gauche et je trouvais que mes parents étaient affreusement ringards à être anticommuniste.
Vous publiez régulièrement pour l'Obs et l'une de vos enquêtes vous a valu le prix Albert Londres 2013. J'espère que maman est fière de ça. C'était donc pour les fantômes du fleuve. On est donc là sur le drame de la migration aux portes de l'Europe. De quel fleuve s'agit-il, Douanboui ?
Alors à l'époque, en 2012, tous les migrants passaient par le fleuve Evros, donc au nord de la Grèce. C'est un fleuve, donc une barrière naturelle qui sépare la Grèce à la Turquie parce que ça coûtait beaucoup plus cher de passer par la mer. Mais à l'époque, que tout le monde tentait de franchir le fleuve dans des espèces de petits canots pneumatiques qui sont en fait, vous voyez, les bateaux gonflables de jouets là, qu'on voit sur les plages. Donc, en sachant que beaucoup ne savaient pas nager, donc beaucoup se sont noyés. Et aussi, en fait, quand ils traversaient, beaucoup mouraient d'hypothermie en fait, dans la forêt.
Un fleuve donc de 180 km que des centaines de clandestins tentent de franchir. Et là, il faut s'arrêter, quand on signe des articles d'Ohenbouy sur cette question, il faut s'arrêter sur deux mots, clandestins et migrants. Ce sont des mots qui sonnent comment à vos oreilles ?
On employait le mot migrant parce que je pense qu'on a tellement envie qu'ils disparaissent. D'ailleurs, même, je me rappelle, en Grèce, j'étais allée dans ce cimetière de migrants, parce que plus personne n'en voulait, même mort, en fait. Donc, migrants, ça veut dire que ils passent, ils arrivent, mais ils repartiront. Alors que réfugiés, ça veut dire qu'on leur accorde l'asile. Donc déjà, ils sont là pour rester. Notre vocabulaire, il a été très influencé par le droit de l'immigration, qui est assez complexe. Et du coup, on en vient à oublier que derrière les chiffres, derrière les lois, il y a d'abord des gens et des histoires. Ça pèse quoi une vie ? Pour 300-561A, anonyme, sexe féminin, 20 à 30 ans, pas grand-chose. Clandestine, elle n'a jamais existé sur les registres de la police. Ses papiers, si elle en a eu, flottent quelque part dans les eaux de l'Evros. 300-561A est un fantôme. Sauf peut-être pour Pavlos Pavlivis, le responsable de la morgue d'Alexandroupoli, une petite ville grecque. Cet homme au calme imperturbable, malgré ses ongles rongés jusqu'au sang, a donné à la jeune femme une existence administrative et un numéro de protocole, le 300-561A. Il lui a attribué un dossier, rangé dans une chemise en carton, quatre feuilles volantes et une enveloppe d'où surgit ce trésor encore piqueté de la boue de l'Evros, de gracieuses boucles d'oreilles vertes, un petit bracelet tressé, un collier avec un minuscule pendentif en cuir cousu. « Il y a une prière à l'intérieur, » dit Pavlos Pavlivis, « une sourate du Coran. » Cet inconnu était donc musulmane, peut-être de Somalie ou du Nigeria.
Extrait en sol majeur de votre enquête intitulée « Les fantômes du fleuve », prix Albert Londres 2013, d'Ohenbouy. Donc donner identité et humanité à ces fantômes, c'est une question qui vous obsède. Est-ce qu'il y a des fantômes qui vous obsèdent toujours ? Trois ans après cette enquête.
Ces fantômes, ils m'obsèdent parce qu'ils me rappellent ce fantôme de cet oncle dont je n'avais jamais entendu parler, qui est lui aussi mort en mer. Et qui est mort deux fois, en fait, puisque le fait que dans notre propre famille, on n'en ait jamais parlé, ça lui déniait son existence. Et moi, après, je suis partie aussi à la recherche. J'ai tenté de faire le même travail que j'avais fait dans Les fantômes du fleuve. Et ça, moi, ça me bouleverse toujours de voir à quel point une existence peut se résumer à très, très peu de choses.
Donc, derrière ces migrants à qui vous donnez un visage, finalement, il y a vos propres morts et vos propres fantômes familiaux que vous restituez. C'est quoi le travail d'un reporter sur une enquête comme Les fantômes du fleuve ?
C'est le travail, comme dans n'importe quelle autre enquête, hein, d'aller sur le terrain voir vraiment ce qui s'y passe et de parler aux personnes sur place, hein, qui voient comme justement cette Pavlos Pavlivis à la morgue, comme les villageois qui voyaient arriver tous ces spectres hagards, mouillés, donc avec toute la complexité aussi du sujet, c'est-à-dire que cette espèce d'ambivalence, ouais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de... Le débat aujourd'hui est tellement polarisé que ça devient compliqué d'avoir une position médiane. Mais nous, notre travail en tant que reporters, il n'est pas de donner des leçons, il n'est pas de faire un travail idéologique, il est juste de raconter ce qu'on voit et de raconter ce qu'on entend.
«
Dire que les problèmes de bouteille, ça l'intéresse Gil Scott-Heron. Et vous, Doane Bouy?
Les problèmes de... Non, ça va.
Mais Gil Scott-Heron, oui.
Ah oui, Gil Scott-Heron, mais bah parce que d'abord, sa musique me prend au cœur, sa voix me prend au cœur, donc oui, à 150%.
Notre invitée aujourd'hui, la journaliste au grand reporter Doane Bouy, qui a sondé les exilés du monde entier avant de balayer devant sa propre pirogue.
Où le pont Mirabeau, où le La Salle. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Ciel, la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Les mains dans les mains, restons face à face.
On a le droit d'être français, d'être fier d'être français sans être nationaliste. On a le droit de parler d'immigration sans être traité de raciste. Nous sommes le seul pays où... Une petite intelligentsia considère qu'on n'a pas le droit de parler d'identité nationale. Alors qu'est-ce qui choque?
Comme
le mot identité ou le mot national? Bon, ben, mais on peut, alors si ça vous préférez, on peut dire identité française.
12 France.
Question très facile pour vous, Doane Bouy. Quel est le point commun entre Sarkozy, Zola, Badinter, Apollinaire et Stravinsky?
Ils sont venus d'ailleurs. Leurs parents sont venus d'ailleurs, et leurs parents, un jour, ont été ce métèque qui va toquer aux portes de l'administration pour quémander de devenir français.
Donc ce livre que vous avez signé en 2010 avec Isabelle Monin, ils sont devenus français, vous l'avez signé donc l'année de la dissolution du ministère de l'Identité nationale, mais est-ce qu'il y a un lien quand même entre ce livre et ce ministère ?
Oui, puisqu'en fait le projet du livre... est née à la création du ministère de l'Identité nationale, où c'était devenu déjà le sujet numéro un. On a eu envie justement d'interroger ces dossiers de naturalisation qui racontaient finalement que, historiquement, avant de devenir français, avant de devenir même partie de notre patrimoine, les Apollinaires et autres, ils ont été un jour l'étranger. Il se trouve que ces dossiers de naturalisation n'avaient jamais été exhumés. Et ça nous semblait raconter historiquement quelque chose de très intéressant sur qu'est-ce que ça veut dire de devenir français, puisque en fonction de la période historique, il est évident que, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, si vous étiez allemand comme Max Ernst, c'était compliqué de demander la nationalité française. Aujourd'hui, si vous avez été en Syrie ou au Pakistan, ça serait compliqué. Mais tout ça est très fluctuant.
Quelle est l'histoire de notre cher Guillaume Apollinaire qui nous a fait transpirer, hein? On a des souvenirs de récitations terribles avec son pont Mirabeau.
Bah, Apollinaire, c'était un apatride russe. Il en a énormément souffert de ne pas être français. Et c'est très, très émouvant de retrouver dans son dossier de naturalisation sa lettre où il demande très très poliment l'honneur de devenir français. Il explique qu'il a, entre guillemets, acquis une certaine réputation dans le monde des lettres. Donc, à l'époque, je précise qu'il était déjà super connu, mais lui reste quand même modeste dans sa lettre.
Et dans son costume d'étranger,
puisque ce qui se passe, c'est que on est en 1913, voilà, il a peur, si jamais il y a une guerre, de devoir partir de France. Et ce qu'il va faire, finalement, c'est que pour être sûr de devenir français, quand la Première Guerre mondiale éclate, hein, il va faire partie des étrangers engagés volontaires, comme Sandrart, par exemple, puisqu'on pouvait acquérir la nationalité française avec, on va dire, le droit du sang et des armes. Alors, ce qui est très ironique dans son histoire, c'est que ça n'a pas été automatique et que il va être en fait naturalisé juste après sa blessure et que malheureusement il meurt à la fin de la guerre et donc il n'aura même pas pu profiter de sa nationalité française si chèrement acquise.
Alors parmi les grands de la chanson française, il y en a un qui avait un phrasé inoubliable, surtout quand on le coinçait dans les rues de son quartier d'enfance.
Je me sens vieux, là, 48 ans. Vous vous rendez compte, j'ai vu la guerre, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu mourir mon père. Enfin, les pigeons sont toujours là. La pierre est plus solide que nous. Voilà, il y a des gamins qui jouent au ballon, comme moi, à l'époque. Trop triste. En fait, je vois l'ombre d'un petit garçon qui n'est plus moi-même. Il est mort. Et puis, il y a aussi les Allemands. Là, je suis passé par ici. Moi, j'avais une étoile de shérif sur le cœur. Étoile jaune. Tout ça, c'est vraiment... Il vaut mieux oublier.
Serge Gainsbourg, une archive INA pour En sol majeur. Alors, d'un point de vue historique, le cas de Gainsbourg vous intéresse pour quelle raison, Doane Bouy?
Parce que les Gainsbourg étaient une famille juive d'origine russe et ils ont aussi donc demandé à être naturalisés français. Ils l'ont été, mais en fait, après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a Vichy, il y a une commission de révision des naturalisations qui vise en fait à enlever la nationalité française. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de déchéance de nationalité, mais ça n'a pas été inventé aujourd'hui. Ça existait sous Vichy. Et le but était, en enlevant la nationalité française à des juifs, donc des mauvais français, de pouvoir les déporter. Et donc quand on a exhumé le dossier de naturalisation de la famille Gainsbourg, on a vu ce tampon de la commission de révision des naturalisations où il y avait marqué « dénaturalisé ». Et on a vu que, en fait, les parents des Gainsbourg et les enfants ont été... tout le monde a été dénaturalisé, alors que les enfants Gainsbourg, Serge Gainsbourg, étaient nés en France. Donc pour le coup, ils ne rentraient pas dans les clous de la dénaturalisation. Et il se trouve qu'on a pu rencontrer la sœur de Serge Gainsbourg avec ces archives-là. Et c'était très émouvant parce qu'elle avait gardé le journal intime de son père. Et on a pu comparer en fait le journal de son père de sa fuite quand il se cachait comme juif et tous les rapports de police qui le traquaient de Lyon à Nice pour l'arrêter.
Gainsbourg, donc cette grande figure de la chanson française, c'est comme ça qu'on le présente, c'est comme Zola, grand auteur français, et il fait partie de votre livre « Ils sont devenus français ».
Zola qu'on appelait l'Italienas.
On parle de droite décomplexée depuis quelques temps, est-ce que vous parleriez vous de racisme décomplexé aujourd'hui, Doane Bouy?
Dans le discours, c'est vrai que les vannes se sont ouvertes. J'étais récemment à Béziers, s'exprimait Éric Zemmour pour la sortie de son ouvrage.
Journaliste.
Et polémiste. Et ce qui m'a frappée, en tout cas, par rapport à ces premiers débats sur l'identité nationale où effectivement affleurait l'idée qu'il y avait des gens plus français que d'autres. Là, c'est comme si c'était devenu une évidence. Et ce qui me frappe aussi, c'est que le racisme, maintenant, de façon très subtile, il s'est déplacé. C'est plus les migrants. Ceux qui sont mis en cause, ce sont les enfants des immigrés. D'ailleurs, tous les débats qu'on a eus sur la déchéance de nationalité, c'est ça, puisqu'il s'agit d'enlever la nationalité à ceux qui sont déjà français. Et on se rend compte que là, même des Français nés en France, mais bon, voilà, qui sont considérés comme suspects, parce que musulmans, parce que ceci, cela, dans une certaine opinion publique, ils sont considérés comme des Français moins français.
Qu'est-ce que vous pensez du slogan « La France black, blanc, beurre » ?
Je n'ai jamais tellement aimé ce slogan, parce que déjà, moi, j'arrivais pas à me reconnaître dedans, puisque black, blanc, beurre, je me disais, mais où sont les Asiatiques dans tout cela?
En même temps, vous dites, pour nous intégrer, je vous cite dans votre livre, nous nous sommes désintégrés. Évidemment, ce nous concerne la communauté asiatique.
Je pense qu'effectivement, il y a eu une invisibilisation de la communauté asiatique depuis très longtemps, qui vient de nous peut-être aussi, cette volonté de ne pas parler. J'ai toujours été surprise par exemple au sort qui avait été fait aux réfugiés venus du Vietnam après 1954, donc qui étaient un peu les équivalents des Harkis. J'étais allée à Saint-Livrade dans le Lot où il y avait un camp où j'ai trouvé des dames qui avaient 90 ans qui habitaient encore dans ce camp. Et en fait, quand ils se sont installés là, après 54, c'était des femmes qui parfois avaient eu des enfants avec des militaires français et qui du coup avaient été évacuées après Dien Bien Phu. Et on les a oubliées dans ce camp. Et en même temps, ça me semblait être très représentatif de comment cette communauté asiatique a souvent été vue comme donc une communauté invisible. On voit là, récemment, il y a eu cette manifestation de la communauté chinoise contre la violence, l'insécurité. Mais j'ai aussi souvenir d'avoir fait des enquêtes là-dessus il y a 5-6 ans où à l'ICRA, on me disait que ça n'existait pas. Ça n'existait pas, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de plainte ou parce que ça ne remontait pas.
Mais à vous lire, on a l'impression qu'au sein de la communauté, il y a une quête, un besoin de chercher, chez les jeunes peut-être, une communauté de substitution. Vous racontez l'histoire de ce jeune Vietnamien converti à l'islam. Vous assistez au procès.
Oui, j'ai assisté à ce procès de djihadistes, entre guillemets. Et évidemment, ce profil m'a interpellée. Et je me suis dit, c'est bizarre que dans la communauté asiatique, par exemple, ma sœur a toujours voulu être juive, donc moi j'ai toujours voulu être française comme les petites Camille et Madeleine de Fleurville. Effectivement, je pense qu'il y a ce besoin de se trouver une communauté substitution parce qu'on n'arrive pas peut-être à se reconnaître dans la nôtre ou qu'on refuse de se reconnaître dans la nôtre, je ne sais pas. Mais dans le cas de ce jeune homme, son identité numéro un, c'était donc son identité de musulman. C'était déroutant parce que c'est pas sa culture d'origine et qu'il ne se définit plus comme français. Moi, c'est quelque chose qui me trouble toujours beaucoup dans mes reportages. Je rencontre plein de jeunes qui se voient pas comme français. Ils sont comme moi, nés en France, mais de parents venus d'ailleurs. Et ils disent tout le temps, les Français, c'est les autres. Donc je me demande, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ? Tant, il y a un tiers de la population qui a des parents qui viennent d'ailleurs, pourquoi tant de Français ne se sentent pas Français ?
Qu'aimeriez-vous qu'on lise comme épitaphe ? Sur votre tombe.
J'étais en reportage en Corée il n'y a pas très longtemps et j'ai organisé mon propre enterrement. Et il se trouve que j'étais en tenue de deuil. Et, bon, ils font ça en Corée, enfin, pour visiblement se reconnecter avec son soi. On organise ses propres funérailles. Et donc il se trouve que j'ai assisté à mes propres funérailles et que j'ai écrit mon épitaphe qui n'était pas terrible. J'ai essayé de trouver un truc un peu spirituel. Je me suis bien amusée. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon.
Qu'est-ce que vous faites de vos morts ?
Je les garde en moi, comme nous tous. C'est un peu comme des petits fantômes dans ma tête qui continuent à me parler et à m'habiter.
Qu'est-ce qu'on appelle dans la famille le village des Bouis ?
Alors le village des Bouis, je l'ai découvert aussi relativement récemment. C'est un petit village près de Hanoï où tous les Bouis ont été enterrés. Et où d'ailleurs tout le monde s'appelle Bouis, c'est très étonnant. Et j'ai pu donc me rendre sur la tombe de mes arrière-grands-parents. Et j'ai pu aussi y emmener mon père, qui n'y avait jamais pu y aller à cause des événements. Et c'était un moment très, très émouvant pour moi, pour lui.
Est-ce que ça reconnecte quelque chose ?
Oui, ça reconnecte. Enfin, ce voyage que j'ai fait avec mes parents et mes filles a clairement les a permis de reconnecter avec leur pays. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient déjà allés au Vietnam plusieurs fois, mais à chaque fois, ils revenaient avec beaucoup d'amertume. Parce que finalement, évidemment... Vietnam n'existait plus. Et là, le fait qu'on soit partis tous en famille, on est revenus justement dans des maisons où ils avaient habité. Et ma mère racontait cette histoire à mes filles. Et du coup, tout prenait sens, en fait. Et je les ai sentis pour la première fois apaisés par rapport à leur exil et réconciliés avec ce pays de leur enfance.
On revient et on relit, dans votre cas, un livre de Romain Gary qui a l'air essentiel, crucial pour vous. C'est La promesse de l'aube.
C'est un livre essentiel parce que c'est un livre qui parle de ce que c'est de devenir français. C'est le plus beau personnage de la littérature, la mère de Romain Gary. Cette mère qui combat comme une lionne pour son fils et qui rêve qu'il devienne violoniste virtuose, enfin qui rêve d'un absolu. Évidemment, je me suis toujours beaucoup identifiée à Romain Gary à cause de sa mère, justement, puisque j'ai eu une mère lionne qui, dans cette bataille que c'est de s'exiler, d'immigrer, a toujours vécu cela comme un combat de boxe. Et nous, on était aussi les instruments de ce combat. Il fallait qu'on soit l'outil d'une revanche sur la vie, le passé, sur tout ça. Voilà, ce livre, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, ma mère aussi.
Une phrase pour la route ?
Une petite phrase. Jusqu'à ce jour, il m'arrive d'attendre la France, ce pays intéressant dont j'ai tellement entendu parler, que je n'ai pas connu et que je ne connaîtrai jamais. Car la France que ma mère évoquait dans ses descriptions lyriques et inspirées, depuis ma plus tendre enfance, avait fini par devenir pour moi un mythe fabuleux, entièrement à l'abri de la réalité, une sorte de chef-d'œuvre poétique.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Doane Bouy, un rêve, le rêve du brin de cannelle. Et pour comprendre ça, il faut le lire. C'est dans Le silence de mon père, paru aux éditions L'Iconoclaste, prix littéraire de la Porte Dorée. En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. À la semaine prochaine.
Musique du monde.